Chapitre 2. Griffes. Ce sont les duchés côtiers qui furent le plus durement touchés par les déprédations de la guerre des pirates rouges. Des fortunes anciennes disparurent, des lignées s'éteignirent, et de superbes propriétés furent réduites à des terrains vagues, envahis de mauvaises herbes, où s'élevaient les ruines de bâtiments calcinés. Cependant, à la suite du conflit, à l'instar des graines dormantes qui germent au printemps après un incendie, les biens de nombre de nobliaux acquirent soudain une valeur considérable. Beaucoup de domaines modestes avaient échappé à l'attention des pirates. Leurs troupeaux et leurs cultures avaient survécu, et ce qui passait naguère pour une exploitation mineure prit tout à coup des allures de pays de cocagne. Les seigneurs et dames de petite noblesse à qui appartenaient ces terres devinrent des parties recherchées pour les héritiers de familles de meilleur lignage, mais aux moyens amoindris. C'est ainsi que le seigneur des tenures de Brisinga, près de Myrteville, épousa une femme beaucoup plus jeune et plus riche que lui. Une boisépie de butte petite, en serre. Les boisépies étaient une vieille et noble famille dont l'importance et la fortune déclinaient lentement. Toutefois, durant la guerre des pirates rouges, la vallée abritée qu'ils occupaient avait prospéré, et ils avaient partagé leurs récoltes avec les habitants ruinés des tenures de Brisinga, mitoyennes de leurs terres. La générosité des Boisépis avait porté ses fruits quand Jaglea Boisépis était devenue dame Brisinga. Elle avait donné un héritier, Civil Brisinga, à son vieil époux avant qu'il mourût d'une fièvre maligne. Histoire de la lignée Boisépi, du scribe Duvelaine. Le seigneur doré se déplaçait avec la grâce et l'assurance inhérente, dit-on, à la noblesse. Il me conduisit sans hésiter jusqu'à une petite salle élégante où son hôtesse et son fils donnaient leur réception. Laurier s'y trouvait déjà, vêtue d'une robe simple, écrue, ourlée de dentelle, et elle était lancée dans une grande conversation avec le maître veneur de Brisinga. Je jugeais que la robe ne lui convenait pas aussi bien que sa tunique et sa culotte de cheval, à cause du contraste incongru entre le hâle de ses bras et de son visage et la délicatesse de son col de dentelle et de ses manches bouffantes. Dame Brisinga était parée d'atours où volants et drapages se mêlaient à foison, et l'abondance de tissus enflait encore les proportions généreuses de sa poitrine et de ses hanches. Il y avait trois autres invités. Un couple marié accompagné de sa fille d'environ 17 ans, manifestement de la petite noblesse locale. Tous attendaient le seigneur doré. Leur réaction à notre entrée fut en tout point telle que l'avait prévu le fou. Dame Brisinga s'avança pour l'accueillir, un sourire aux lèvres. Du regard, elle le parcourut de la tête aux pieds et ses yeux s'agrandirent de ravissement.
« Notre hôte estimé est parmi nous » annonça-t-elle.
Sire Doré tourna la tête légèrement de côté en rentrant le menton d'un air innocent, comme s'il n'avait pas conscience de sa propre beauté. Laurier l'observa sans chercher à cacher son admiration, tandis que Dame Brisinga le présentait au seigneur et à la dame Omble de Monclavette et à leur fille Sidèle. Ces noms ne me disaient rien, sauf celui de Monclavette, qui désignait, me semble-t-il, une petite tenure du piémont de Bouge. Sidèle rosit et parut prête à se pâmer quand Sire Doré s'inclina devant elle et les siens. De cet instant, la jeune fille ne le quitta plus des yeux. Sa mère, elle, me parcourut d'un regard appréciateur dont elle aurait dû rougir. Je me détournai pour me trouver face à Laurier, qui me dévisageait d'un air troublé, comme si elle avait oublié qu'elle me connaissait. Sire Doré irradiait une satisfaction presque palpable devant le succès de son entreprise de séduction. Il offrit son bras à Dame Brisinga et Civil escorta Sidèle. Le seigneur et Dame Omble leur emboîtèrent le pas, imités ensuite par les maîtres veneurs. En bon domestique, je fermai la marche, et nous nous rendîmes dans la salle à manger où je me plaçai derrière Sire Doré. Ma position annonçait aussi bien le garde du corps que le valet, et Dame Brisinga me lança un regard interrogateur, mais je restai impassible. Si elle estimait que Sire Doré dérogeait aux lois de l'hospitalité en se faisant accompagner par moi, elle n'en dit rien. Civil, lui, me toisa un moment, Puis il écarta l'énigme de ma présence en glissant un mot à l'oreille de sa voisine. Dès lors, je devins invisible. Je ne crois pas avoir joui d'un poste d'observation plus inattendu de toute ma carrière d'espion. En tout cas, il n'avait rien de confortable. J'avais faim, et la table de Dame Brézinga croulait sous des mets aux arômes dont la finesse n'enlevait rien à la succulence. Les domestiques passaient et repassaient sous mon nez, les bras chargés de plats plus appétissants les uns que les autres. En outre, j'étais là, et courbattu de ma longue chevauchée, et je devais faire un effort pour rester immobile, éviter de déplacer sans cesse mon poids d'un pied sur l'autre, tout en gardant les oreilles et les yeux ouverts. Toutes les conversations tournaient autour du gibier. Sir Omble, son épouse et sa fille étaient d'ardents chasseurs, motif de leur invitation, à l'évidence. Très rapidement, un autre sujet de discussion apparut. Ils chassaient, non avec des chiens, mais avec des félins. Sir Doré avoua sa complète ignorance sur ces bêtes et pria qu'on l'éclairât sur le sujet, au grand plaisir de ses compagnons de table. Les explications s'embourbèrent bientôt dans des disputes de spécialistes sur les meilleures races de marguets pour la chasse aux oiseaux, illustrées d'anecdotes destinées à démontrer les capacités des différentes espèces. Les Brézinga claironnaient leur préférence pour un type à queue courte, baptisé Elinex, tandis que Sir Omble en tenait véhémentement pour le faire au part et se déclarait prêt à parier des sommes exorbitantes sur sa supériorité, que la proie soit oiseau ou lièvre. Sir Doré était un auditeur des plus flatteurs, posant d'innombrables questions, exprimant un étonnement et un intérêt sincère à chaque réponse. Il apprit ainsi, et moi aussi par la même occasion, que les marguets n'étaient pas des bêtes de chasse à court, du moins pas de la même façon que les chiens. Chaque participant choisissait un seul de ses félins, qui l'accompagnait couché sur un coussin spécial, fixé à l'arrière de la selle de son maître. Les féropards, grands marguets, pouvaient être lâchés sur des animaux de la taille d'un jeune cerf. Un démarrage foudroyant leur permettait d'attraper leur proie par surprise, après quoi ils l'étranglaient d'une prise à la gorge. Les élinex, plus petits, servaient souvent dans les hautes herbes des prairies ou les broussailles des sous-bois, où ils se mettaient à l'affût en attendant que leurs victimes fussent assez proches pour bondir et les assommer d'un coup de patte ou leur briser le cou d'une morsure précise. Un divertissement fort apprécié consistait à lâcher ces bêtes sur une volée de pigeons ou de colombes apprivoisées afin de voir combien elles en plaquaient au sol avant l'envol général. Souvent, d'ailleurs, on organisait des compétitions à partir de ce jeu, où ces petits marguets à queue courte se mesuraient deux à deux et où l'on pariait des sommes considérables sur les favoris. Les Brézinga s'enorgueillissaient d'abriter 22 spécimens des deux races dans leurs écuries. Les Ombles, eux, n'avaient que des féropards dans leur chatterie, et seulement au nombre de 6. Mais leur hôtesse affirma au Seigneur Doré que ses amis possédaient certains des plus beaux reproducteurs qu'elle eût jamais vus.
Ces marguets naissent donc en captivité? On m'avait assuré qu'il fallait les attraper dans la nature, car ils refusaient de se reproduire une fois domestiqués.
Sir Doré riva son attention sur le maître veneur des Brézinga.
Oh, les féropards acceptent de s'accoupler, mais à condition qu'on les laisse mener leurs affrontements entre mâles et faire leurs cours vigoureuses sans les déranger. Le terrain clos que Sir Omble réserve à cet usage est très grand et nul ne doit jamais y pénétrer. Nous avons beaucoup de chance que ces efforts à cet égard aient porté leurs fruits. Jusque-là, comme vous le savez peut-être, tous les féropards étaient importés de Calcède ou de la région de Bord des Sables, en Bauge et à grands frais, naturellement. Quand j'étais enfant, ils étaient très rares par ici, mais dès que j'en ai vu un, j'ai su que je ne voudrais jamais d'autre animal de chasse. J'espère ne pas passer pour un vantard, mais j'ai été le premier à envisager, étant donné le coût des féropards, de dresser les linex de nos campagnes à rendre les mêmes services. La chasse à l'élinex était complètement inconnue en serre avant que mon oncle et moi en attrapions un couple. C'est ce félin-là qu'il faut capturer adulte, en général à l'aide d'une fosse, et qu'on forme ensuite à travailler en association avec l'homme.
Ce discours nous avait été tenu d'un trait par le maître veneur des Brézinga, un grand gaillard qui parlait avec feu, penché sur la table. Il s'appelait Avoine et se passionnait manifestement pour le sujet. Sir Doré l'honorait d'une attention sans faille.
« C'est extraordinaire! J'ai hâte d'apprendre comment on apprivoise de petites créatures aussi dangereuses. J'avoue également que j'ignorais l'existence de tant de noms pour désigner les marguets. J'imaginais naïvement qu'il n'y en avait qu'une seule espèce. Alors voyons, on m'a rapporté que le marguet du prince de Voir avait été pris tout petit dans sa tanière. Il doit donc s'agir d'un féropare.
Avoine échangea un regard avec sa maîtresse, comme s'il demandait la permission de répondre.
« Eh bien, en réalité, le marguet du prince n'est ni un élinex, ni un féropare, sire doré. C'est une créature beaucoup plus rare, généralement connue sous l'appellation de brumier. Elle vit bien plus haut dans les montagnes que nos marguets, et elle a la particularité de chasser indifféremment dans les arbres et au sol. »
Avoine avait pris le ton professoral d'un expert. Une fois lancé, il était capable de continuer jusqu'à ce que son auditoire demande grâce.
De taille réduite, il s'attaque à des proies nettement plus grosses que lui. Il se laisse tomber sur un chevreuil ou un mouflon et s'agrippe à son échine jusqu'à ce que la victime cesse de courir, épuisée, ou bien qu'il lui broie la nuque entre ses mâchoires. À terre, il n'a pas la vitesse du féropare ni la furtivité de l'élinex, mais il combine efficacement les deux techniques pour le petit gibier. Et l'on vous a dit vrai sur le brumier, il faut le capturer dans sa tanière juste après la naissance, avant qu'il ait ouvert les yeux, si l'on veut pouvoir l'apprivoiser, ce qui n'exclut pas le risque qu'il garde un tempérament instable. Néanmoins, pris à temps et correctement dressé, il devient le compagnon le plus fidèle dont puisse rêver un chasseur, mais il faut savoir qu'il n'acceptera jamais qu'un seul maître. Un proverbe dit des brumiers, « De la tanière au cœur, point d'erreur ». Cela signifie naturellement que seul celui qui a le flair de découvrir un nid de brumier pourra un jour en posséder un, ce qui est en soi un exploit. Si vous rencontrez un homme en compagnie d'un brumier, vous saurez que vous êtes en présence d'un maître de la chasse au marguet.
Avoine s'interrompit tout à coup. Si sa maîtresse lui avait adressé un signe, je n'en avais rien vu. Le maître veneur était-il impliqué dans la situation qui avait valu au prince de recevoir le marguet en cadeau? Cependant, sire Doré négligea joyeusement les sous-entendus de ce qu'il venait d'apprendre.
« C'est donc un présent somptueux qui a été fait à notre prince, » fit-il avec enthousiasme. « Mais vos propos anéantissent mon espoir d'avoir un brumier comme compagnon de chasse demain matin. Puis-je au moins entretenir celui d'en voir un à l'œuvre ?»«
Je regrette, sire Doré. » répondit gracieusement Dame Brisinga. « Mais nous n'en avons pas dans notre meute. Ces animaux sont très rares. Si vous désirez assister à la chasse d'un brumier, il vous faudra demander au prince lui-même de vous emmener lors d'une de ses sorties. Il en sera certainement enchanté. »
Le seigneur doré prit un air déconfit, puis secoua la tête en souriant.
« Oh, non, madame, on dit que notre illustre prince chasse à pied, de nuit et par tous les temps. » C'est une entreprise qui exige une robustesse que je n'ai pas, malheureusement. Non, ce n'est pas de mon goût, pas du tout. »
Et il eut un petit rire virevoltant, comme des quilles entre les mains d'un jongleur. Chacun se joignit à son amusement autour de la table.
« Grimpez !»
Je sentis de petites piqûres sur mes mollets, et baissant les yeux, je vis à mes pieds un chaton rayé venu je ne sais d'où. Dressé sur ses pattes arrière, il avait solidement enfoncé ses griffes de devant dans ma chausse. Son regard jaune-vert se planta dans le mien.
« Montez !»
Impassible, du moins je l'espérais, je refusais le contact mental. Sire Doré avait orienté la conversation sur les types de marguets qui participeraient à son excursion du lendemain, en demandant s'il risquait d'abîmer le plumage des oiseaux, car il le rappelait à tous, c'étaient les plumes qui l'intéressaient, même si une tourte aux cailles n'était pas pour lui déplaire. Je déplaçai mon pied dans l'espoir de déloger la petite ronce poilue qui s'y accrochait, mais en vain.
« Grimpez !»
répéta-t-elle d'un ton insistant, en se hissant un peu plus haut sur ma jambe. Elle s'agrippait à présent des quatre pattes, et ses petites griffes avaient traversé le tissu pour s'enfoncer dans ma chair. Je m'efforçai de réagir comme un domestique ordinaire. Je fis une grimace, puis me penchai discrètement pour décrocher la petite créature, une patte après l'autre. Mon entreprise serait peut-être passée inaperçue si le chaton n'avait pas poussé un miaulement dépité à se voir ainsi contrarié. J'avais compté le reposer par terre, mine de rien, mais Sire Doré attira sur moi tous les regards en me demandant d'un ton amusé.
« Eh bien, blaireau, qu'avez-vous attrapé là ?»«
Un petit chat, monseigneur. Il tenait à grimper le long de ma jambe. » L'animal ne pesait pas davantage qu'une aigrette de pissenlit dans ma main, et l'illusion de volume que lui donnait son épais manteau de duvet était démentie par la minuscule cage thoracique que je sentais sous mes doigts. Il ouvrit sa petite gueule rouge et appela sa mère.
« Ah, te voici !»
s'exclama la fille de Sire Humble en quittant sa chaise d'un bond. Et, au mépris de toute convenance, elle se précipita pour prendre le chaton qui se tortillait dans ma paume et le serra sous son menton.
« Merci beaucoup de l'avoir retrouvé. »
Et elle regagna sa place en poursuivant.
« Je n'avais pas le cœur de le laisser tout seul à la maison, mais il a dû s'échapper de ma chambre après le petit déjeuner, car je ne l'ai pas vu de la journée. »
« C'est donc à cela que ressemble le petit Damarguet ?» demanda Sire Doré tandis que la jeune fille se rasseyait.
Elle sauta sur l'occasion de bavarder avec mon maître.
« Oh non, Sire Doré, c'est seulement mon petit amour de chat, Thibou. Il ne fait que des bêtises, mais je ne supporte pas de rester loin de lui, n'est-ce pas, mon mignon ? Quel souci je me suis fait pour toi cet après-midi ?»
Elle déposa un baiser entre les oreilles du chaton, puis installa la petite créature sur ses genoux. Nul ne paraissait considérer sa conduite comme incongrue. Comme le repas et les bavardages reprenaient, je vis la petite tête rayée surgir au bord de la table.
« Poisson !»
fit le chaton avec délectation, et quelques instants plus tard, Civil lui tendit un morcelet pris dans son assiette. Je jugeais que ce geste ne prouvait pas grand-chose. Il pouvait s'agir d'une coïncidence, voire de la réaction inconsciente que provoquent parfois, chez les non-vifiés, les désirs d'animaux qu'ils connaissent bien. D'une patte vive, le chaton s'appropria le bout du poisson, le saisit dans sa gueule et se laissa retomber sur les genoux de sa maîtresse. Des domestiques entrèrent pour débarrasser la table, tandis que d'autres apportaient desserts et vins aromatisés. Sire Doré accaparait la conversation. Les anecdotes de chasse qu'il racontait relevaient de l'invention pure et simple, ou bien son parcours, lors de la dizaine d'années écoulées, n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Quand il parla de marins qui harponnaient des animaux depuis des embarcations en peau, tirées par des dauphins, même Sidèle eut l'air d'avoir du mal à le croire. Mais comme toujours, si l'histoire est bien racontée, les auditeurs sont prêts à l'écouter jusqu'au bout, et ce fut le cas ce soir-là. Sire Doré acheva son récit sur une superbe fioriture de style, avec dans l'œil une étincelle espiègle qui laissait entendre que, s'il avait embelli son aventure, jamais il ne le reconnaîtrait. Dame Brézinga demanda qu'on apportât de l'eau-de-vie, et la table fut encore une fois desservie. L'alcool arriva entouré d'un nouvel assortiment de douceurs propres à tenter les invités, pourtant rassasiés. Dans les yeux qui pétillaient jusque-là sous l'effet du vin et des plaisirs du palais, naquit la profonde lueur de contentement qu'une eau-de-vie de qualité suscite après un repas raffiné. J'avais abominablement mal aux jambes et au bas du dos. J'avais en outre une faim de loup, et j'éprouvais une telle fatigue que, si j'avais eu la liberté de m'allonger sur le pavage, je me serais endormi aussitôt. J'enfonçais mes ongles dans mes paumes pour me maintenir éveillé. L'heure était venue où les langues se délient et où l'on bavarde sans contrainte. Malgré la pose un peu avachie du seigneur Doré, je me doutais qu'il n'était pas aussi éméché qu'il s'en donnait l'air. La conversation était revenue sur les marguets et la chasse. Pour ma part, j'avais le sentiment d'avoir appris tout ce qu'il me fallait savoir sur la question. Au bout de 6 essais contrecarrés par sa jeune maîtresse, le chaton était parvenu à monter sur la table. Et, après s'être roulé en boule et avoir fait une courte sieste, il déambulait entre les bouteilles et les verres en se frottant contre eux, au risque de les renverser.
« Ça, c'est à moi. Ça aussi, c'est à moi. Et ça aussi. »
Avec l'assurance sans faille des très jeunes, il s'arrogeait la propriété de tous les objets qu'il rencontrait. Quand Civil saisit la carafe d'alcool pour remplir son verre et celui de sa voisine, le petit chat fit le gros dos et sautilla vers lui. Les pattes raides, résolu à défendre son bien.
« C'est à moi !»«
Non, c'est à moi !» répondit affablement le jeune garçon en repoussant le chaton du dos de la main. L'échange fit rire Sidèle. Je sentis un lent picotement d'intérêt monter en moi. Mais je gardais l'œil terne, braqué sur le dos de mon maître. Ils avaient le vif, tous les deux. J'en avais à présent la certitude. Or, comme cette magie se transmet souvent d'une génération à l'autre...
« Et qui donc a capturé le brumier que le prince a reçu ? » demanda Sire Doré tout à coup.
La question ne tranchait pas vraiment sur la conversation, mais elle était si précise qu'elle attira tous les regards sur son auteur. Le seigneur Doré eut un petit hoquet qui dissimulait peut-être un rot discret. Cette éructation, combinée à son regard légèrement vague, suffit à donner un aspect innocent à son interrogation.
« Je gage que c'est vous, maître Avoine. »
Et un geste élégant de sa main fit de son assertion un compliment adressé au veneur.
« Non, ce n'est pas moi. »
L'homme secoua la tête, mais, curieusement, n'ajouta rien. Sire Doré se laissa aller contre le dossier de sa chaise en se tapotant la lèvre de l'index comme s'il participait à un concours de devinettes. Il parcourut la tablée d'un œil embrumé, puis il eut un petit rire entendu et désigna Civil.
« Alors c'est vous, jeune homme, car il paraît que c'est vous qui avez apporté le marguet au prince. »
Le jeune garçon jeta un rapide coup d'œil à sa mère avant de déclarer gravement
« Ce n'est pas moi, Sire Doré. »
Suivi là encore, ce silence anormal qui indique qu'on scelle des renseignements. Le fou se heurtait à un front uni, et je jugeais que sa question resterait sans réponse. Le seigneur Doré appuya la tête contre son dossier, inspira bruyamment, puis soupira.
« C'est un sacré cadeau, » fit-il. « J'aimerais bien en avoir un, moi aussi, après ce que j'ai entendu ce soir. Mais entendre, ce n'est pas voir. » « Je crois bien que je vais demander au prince de me laisser l'accompagner un de ces soirs. »
Il poussa un nouveau soupir et sa tête s'inclina de côté.
« Enfin, s'il sort un jour de sa retraite de méditation, ce n'est pas normal, si vous voulez mon avis, qu'un gosse de cet âge passe tellement de temps tout seul. Non, pas mornal, normal du tout. »
L'élocution du seigneur Doré devenait de plus en plus embarrassée. Celle de Dame Brézinga était en revanche parfaitement clair.
Notre prince s'est donc encore une fois retiré de la vie publique pour se plonger dans ses réflexions ?
Demanda-t-elle.
Eh oui, répondit Sire Doré. Et ça commence à faire un moment, évidemment, et il a de quoi réfléchir. Ces temps-ci, avec ses fiançailles, la délégation outrilienne qui arrive et tout ça. Ça fait beaucoup pour un jeune garçon. À mon avis. Tiens, vous, jeune homme, comment est-ce que vous réagiriez à sa place ?
Il désigna vaguement Civil du doigt.
Ça vous plairait de vous retrouver fiancé à une femme que vous ne connaissez pas ? Ce n'est d'ailleurs même pas une femme, si la rumeur dit vrai. Elle sort à peine de l'enfance. Elle a quoi ? 11 ans ? C'est une gamine. Elle est beaucoup trop jeune, vous ne croyez pas ? Et puis... « Je ne vois pas les avantages d'une telle union, non, vraiment, je ne vois pas. »
Ces propos imprudents confinés à la critique déclarée de la décision de la reine, et des regards s'échangèrent autour de la table. Manifestement, le seigneur Doré avait bu plus que de raison, et il continuait à remplir son verre. Ces derniers mots restaient en suspens, et nul n'osait y répondre. Peut-être Avoine crut-il orienter la conversation sur un terrain plus sûr en demandant «
« Le prince fait donc souvent retraite pour méditer ?»«
C'est la coutume des montagnes, » dit Sire Doré. « Enfin, à ce qu'il paraît. Ce qui est sûr, c'est que ça ne vient pas de Jamaïlia. Les jeunes nobles de mon beau pays ont plus le sens des relations. Et on les y encourage, croyez-moi, car comment un jeune aristocrate peut-il mieux apprendre les manières et les us de la société qu'en y vivant. Votre prince de voix ferait peut-être bien de se mêler un peu plus à sa cour, et aussi de chercher plus près de chez lui un parti convenable. »
Un accent jamaïlien commençait à chanter dans le discours au volume faiblissant du seigneur Doré, comme si l'ivresse le ramenait aux habitudes de son ancienne terre. Il but une gorgée d'eau-de-vie, et reposa son verre avec tant de maladresse qu'une vaguelette ambrée en déborda. De la paume de la main, il se frotta la bouche et le menton, comme pour en chasser l'effet insensibilisant de l'alcool. Je le soupçonnais, pour ma part, de n'avoir fait que poser le bord du verre contre ses lèvres, sans avaler une goutte de son contenu. Sa diatribe n'avait suscité aucune réaction, mais il parut ne pas s'en apercevoir.
« Jamais encore il n'avait disparu aussi longtemps, » poursuivit-il. « Où est le prince de Voir ?
on n'entend plus que cette phrase à la cour. « Quoi, encore en retraite, et quand revient-il? Comment on n'en sait rien ?» Le moral de la cour se ressent d'une si longue absence de notre jeune souverain. « Qu'en dites-vous, avoine? Est-ce qu'un marquet se languit quand son maître le délaisse ?»
L'intéressé prit un air songeur.
« Quelqu'un qui tient à son marguet ne le laisserait jamais seul très longtemps. La fidélité d'un marguet n'est jamais acquise, il faut la renouveler tous les jours. »
Il s'apprêtait à continuer quand Dame Brisinga l'interrompit en douceur.
« Et puis, nos bêtes chassent mieux quand l'aube s'étend encore sur la terre. Ainsi donc, si nous voulons montrer aux seigneurs dorés nos beautés sous leurs meilleurs jours, nous devrions tous nous retirer afin de nous lever tôt. »
Elle fit un petit signe, et un domestique s'avança pour reculer sa chaise. Aussitôt, chacun se leva, y compris Sire Doré avec une petite embardée. Je crus entendre la fille des ombles pousser un léger gloussement amusé, bien qu'elle non plus ne tînt guère sur ses jambes. Fidèle à mon rôle, je m'approchai de Sire Doré pour lui offrir un bras ferme, mais il le refusa avec hauteur et m'écarta de la main, agacé par mon impertinence. Droit comme un i, j'attendis stoïquement que les nobles assemblés se fussent souhaités mutuellement la bonne nuit. Après quoi, je suivis le seigneur Doré jusqu'à ses appartements. J'ouvris la porte devant lui, et quand je la franchis à mon tour, je constatai que les serviteurs du manoir n'avaient pas chômé. Les accessoires de bain avaient disparu, on avait remplacé les chandelles dans les bougeoirs, et la fenêtre était fermée. Un plateau de viande froide, de fruits et de pâtisseries était posé sur la table. Une fois la porte close, mon premier geste fut d'aller ouvrir la fenêtre. Il ne me semblait pas naturel de laisser un obstacle entre Œil de Nuit et moi. Je jetai un coup d'œil à l'extérieur, mais ne vis aucun signe du loup. Il devait effectuer discrètement le tour du propriétaire, et je ne voulus pas le contacter par le vif, de crainte d'attirer l'attention. Je parcourus rapidement nos différentes pièces, à l'affût de la moindre trace de fouille, puis ouvris les penderies et regardai sous les lits à la recherche d'éventuels espions. Les Brisinga et leurs invités s'étaient montrés circonspects pendant le repas. Ils connaissaient la véritable raison de notre présence, ou alors ils s'attendaient à ce que nous-mêmes ou d'autres visiteurs comme nous viennent chez eux chercher le prince. Toutefois, je ne découvris aucun espion dans la literie, et mes vêtements, que j'avais jetés négligemment sur une chaise, ne paraissaient pas avoir été dérangés. Il est facile, après une fouille, de remettre en ordre une chambre parfaitement rangée, mais il est plus difficile de se rappeler avec précision l'angle selon lequel les manches d'une chemise jetée sur un siège traînaient au sol. J'inspectai pareillement la chambre de Sire Doré, qui attendit en silence que j'eusse terminé, puis, quand je revins auprès de lui, se laissa choir lourdement dans un fauteuil en poussant un grand soupir. Ses paupières se fermèrent tandis que son menton tombait sur sa poitrine. Ses traits affaissés étaient comme empesés par l'alcool. Je laissai échapper un grognement consterné. Par quelle incurie avait-il bien pu s'enivrer ainsi? Alors que je le regardais avec accablement, il souleva une jambe après l'autre et ses talons donnèrent bruyamment contre le sol. Docilement, je lui retirai ses bottes et les rangeai. Pouvez-vous tenir debout? Lui demandai-je.
Qu'est-ce que vous dites?
Accroupi à ses pieds, je levai les yeux vers lui. Je dis, pouvez-vous tenir debout? Il entr'ouvrit les paupières, puis un sourire étira lentement ses lèvres.
Je suis un comédien génial,
fit-il dans un murmure,
et tu es le meilleur des publics, Fitz. Sais-tu à quel point il est peu gratifiant de jouer un rôle alors que personne ne le sait, d'entrer dans la peau d'un personnage totalement différent de soi alors que nul ne se rend compte de la performance que cela représente?
Dans ses yeux d'or brilla un éclat de l'ancienne espièglerie du fou. Puis, cette lueur disparut. Sa bouche prit un pli grave et il déclara dans un murmure à peine audible
« Bien sûr que je tiens debout ». Je peux même danser et faire des cabrioles si besoin est. Mais ce n'est pas la soirée pour cela. Ce soir, tu dois te rendre aux cuisines et te plaindre que ton estomac crie famine. Séduisant comme tu l'es, tu trouveras sûrement quelques bonnes âmes pour te fournir de quoi te restaurer. Profites-en pour voir où peuvent te mener tes conversations. Va donc, va tout de suite. Je suis parfaitement capable de me coucher tout seul. Souhaites-tu que la fenêtre reste ouverte ?
Je préférerais, oui, répondit Jean Biaisant.
Moi aussi.
La pensée d'œil de nuit était plus légère qu'un souffle.
Il en sera donc ainsi, décréta Sire Doré.
La cuisine grouillait encore de domestiques, car la fin du repas n'est pas la fin du service. De fait, peu de gens travaillent plus dur ou plus longtemps que ceux qui ont la charge de nourrir un château, car en général, après que tout a été lavé et rangé, il est presque l'heure de mettre le pain à lever pour le repas suivant. Cette règle s'appliquait aussi bien à Castelmyrte qu'à Castelserre. Je passais la tête par la porte avec une expression à la fois interrogatrice et pleine d'espoir. Aussitôt, une des aides me prit en pitié. Je la reconnus. Elle avait participé au service de la table, et Dame Brisinga l'avait appelée Lebven.
Vous devez mourir de faim. Ils étaient tous bien assis à boire et à manger, pendant que vous restiez debout planté comme un piquet. Entrez, entrez donc. Ils s'en sont mis plein la panse, mais il y a encore largement de quoi vous restaurer.
Peu après, je me retrouvai installé sur un haut tabouret à un coin de la table à pain, planche de farine et couverte d'éraflures. Lebven déposa tout un assortiment de plats devant moi, et de fait, j'avais de quoi me sustenter plus qu'en abondance. Des tranches de venaison fumée occupaient encore la moitié d'un plat artistement bordé de petites pommes confites. Des abricots enrobés de sucre formaient des coussins dorés et rondelaient au cœur de carré d'une pâte si fine qu'elle s'effritait à la première bouchée. Guère tenté par les minuscules foies d'oiseaux qui marinaient par dizaines dans de l'huile à l'ail, je m'intéressais davantage à des magrets de canard à la chair sombre garnis de tranches fondantes de gingembre doux et me vautrais dans un paradis gastronomique. J'avais aussi à ma disposition du beau pain bis et du beurre pour le tartiner, que Lebven accompagna d'une chope et d'une cruche de bière fraîche. Quand je l'eus remerciée d'un hochement de tête, elle se plaça en face de moi, saupoudra généreusement la table de farine et y déposa une boule de pâte levée. Elle entreprit de la battre, de la tourner et de la retourner en y ajoutant des poignées de farine jusqu'à ce qu'elle prît un aspect satiné. Je restai quelque temps à manger et à observer ce qui m'entourait en tendant l'oreille. J'entendis les habituels bavardages de cuisine, ragots et discussions sur les petites rivalités entre domestiques, querelles à propos d'un seau de lait mis à cailler et répartition des tâches à effectuer pour le lendemain. Les maîtres de la maison allaient se lever tôt, et il fallait que le petit déjeuner soit prêt, aussi somptueux que le repas de la veille. Ils auraient aussi besoin, pour leur sortie, de victuailles qui flatteraient l'œil autant qu'elles rempliraient l'estomac. Devant moi, Lebven aplatissait la pâte, l'enduisait de beurre, la pliait, puis l'aplatissait, la beurrait et la pliait à nouveau. Elle remarqua mon regard posé sur elle et sourit.
« Avec plusieurs épaisseurs, ça donne une pâte à la fois croustillante et fondante, mais c'est beaucoup de peine pour des friands qui seront dévorés en un clin d'œil. »
Derrière elle, un serviteur plaça un panier fermé sur le comptoir. Il souleva le couvercle, tapissa l'intérieur d'une serviette, puis commença de le remplir, quelques petits pains, un pot de beurre, un petit plat garni de tranches de viande et un bocal de pommes confites. Je le regardais du coin de l'œil tout en écoutant Lebven.
C'est quand même bizarre que la plupart de ces gens ne songent pas une minute au mal qu'on se donne pour leur confort.
Plusieurs murmures d'assentiment répondirent à cette remarque.
Tenez, vous, par exemple, poursuivit Lebven, compatissante, obligé de monter la garde toute la soirée, comme si votre maître était en danger dans une maison où il est invité. Ça, c'est encore des idées farfelues de Jamaïliens, alors que vous auriez pu manger à une heure normale et avoir un peu de temps libre.
Ça aurait été avec plaisir, répondis-je avec sincérité. J'aurais bien aimé visiter un peu le manoir. Je n'ai jamais connu de demeure où on élève des chats au lieu de chiens. Le domestique prit son panier et se rendit à la porte de service, où il le remit à un homme qui l'attendait avec dans la main quelque chose de velu et de flasque, que je ne fis qu'entreapercevoir alors que la porte se refermait. J'aurais voulu me lancer à la poursuite de ce panier, mais Lebven répondait à ma remarque.
« Ah, ça ne date que d'une dizaine d'années, depuis la mort du vieux maître. Avant, on avait surtout des chiens. » Rien qu'un marguet ou deux pour les chasses de Notre-Dame, mais le jeune maître préfère les chats, et quand les chiens sont morts de vieillesse, on ne les a pas remplacés. Et je ne peux pas dire que leurs aboiements me manquent, ni leurs gémissements, sans compter qu'on les avait tout le temps dans les jambes. Les marguets restent dans leurs écuries, sauf quand on les emmène chasser, et les chats, ma foi, ils sont adorables, rien à dire.
Il n'y a plus un rat de la rivière qui se risque à montrer le bout de son museau dans la cuisine. »
Et elle adressa un regard affectueux au matou bigarré couché près de la cheminée. Malgré la douceur de la soirée, il se rôtissait consciencieusement au feu déclinant. Lebven cessa enfin de plier et replier la pâte pour la pétrir vigoureusement jusqu'à ce qu'il s'y forme des bulles d'air. Cette activité rendait toute conversation difficile et me permit de prendre congé sans déroger à la courtoisie. Je me dirigeai vers la porte de service et l'ouvris. L'homme au panier avait disparu. Lebven m'appela.
« Si vous cherchez les latrines, prenez l'autre porte et tournez le coin. C'est juste avant d'arriver au clapier. »
Je la remerciai et suivis docilement ses instructions. Dehors, j'observais longuement les environs, mais ne repérais aucun mouvement. Je passai l'angle de la cuisine, mais une autre aile du bâtiment me boucha la vue. Je distinguais des rangées de cages à lapins entre le manoir et les écuries. C'était donc cela que l'homme tenait dans la main. Un lapin qui venait de se faire tordre le cou. Parfait repas tardif pour un marguet. Mais je ne voyais personne, et je n'osais pas contacter Œil de Nuit, ni rester trop longtemps à l'extérieur, au risque d'éveiller des soupçons. Je poussai un grognement d'agacement, certain que le panier de victuailles était destiné au prince et à sa marguette. J'avais laissé passer une occasion. Je regagnai la tiédeur et la lumière de la cuisine. L'agitation qui y régnait à mon départ était retombée. La vaisselle presque terminée, les garçons et les filles de peine allaient se coucher. Pour finir, seuls restèrent Lebven, toujours occupé à malaxer sa pâte, et un homme à la mine morose qui surveillait une marmite où mijotait de la viande. Je me rassis à la table à pain et vidai le fond de bière de la cruche dans ma chope. Les autres serviteurs devaient se trouver déjà dans leur lit pour se reposer autant qu'ils le pouvaient avant de devoir se lever pour le petit déjeuner. Le matou bigarré se dressa brusquement, s'étira et s'approcha de moi. Je feignis de ne rien remarquer, tandis qu'il reniflait mes chaussures puis mon mollet. Il détourna la tête et entr'ouvrit la gueule, apparemment dégoûté. Mais ce devait être en réalité sa façon d'analyser mon odeur. Je captai une volute dédaigneuse de pensée. « Il sent comme un chien, dehors !» Sans effort, il sauta sur la table près de moi et tendit le museau vers le plat de venaison. Je lui barrai le passage, mais sans s'offusquer de mon geste, ni même sembler s'en apercevoir, il passa tranquillement par-dessus mon bras pour s'emparer de la tranche qu'il désirait.
« Voyons, Belin ! Quelle manière devant un invité ! Ne faites pas attention à lui, Tom, il n'a aucune éducation !»
Et elle prit le chat entre ses mains blanches de farine. Il ne lâcha pas son morceau de viande, et, une fois à terre, il s'accroupit et se mit en devoir de le dévorer, la tête tournée de côté pour le cisailler. Il lança un regard de reproche à Lebven.
« On ne sert pas les chiens à table, femme !»
J'eus du mal à ne pas imaginer de la malveillance dans les yeux jaunes qu'il dirigea ensuite vers moi, et par une réaction puérile, je le regardai bien en face, sachant pertinemment que la plupart des animaux détestent cela. Il marmonna une menace, saisit sa viande et s'éclipsa sous la table. Je terminai lentement ma bière. Le chat avait reconnu l'odeur d'œil de nuit sur moi. Cela signifiait-il que tout le manoir était au courant de mon accointance avec le loup? Malgré les longs exposés dont Avoine nous avait gratifiés tout au long de la soirée, j'en savais encore trop peu sur les marguets et leurs congénères. Allait-il considérer Œil de Nuit comme un intrus, ou bien accepterait-il sa trace dans la cour? Accorderait-il assez d'importance à sa présence pour la signaler au vivier de la demeure? Tous les liens de vif ne sont pas aussi intimes que celui que je partageais avec le loup. L'intérêt qu'il portait aux aspects humains de ma vie avait heurté Rolf le Noir au point de le révolter. Peut-être les marguets ne se liaient-ils aux hommes que pour le plaisir de la chasse. Ce n'était pas impossible. C'était improbable, mais non impossible. Tout compte fait, je n'en avais guère appris que nous nous suspections déjà, mais au moins, je m'étais copieusement restauré. Le seul effort dont je me sentais capable à présent était d'aller me coucher. Je remerciais Lebven, lui souhaitais la bonne nuit, et bien qu'elle protestât qu'elle s'en occuperait, je débarrassais la table de mon couvert. Regagnai ensuite les appartements de mon maître dans le manoir silencieux. Une faible lumière filtrait sous la porte. Je tournai la poignée en m'attendant à trouver le loquet en place, mais elle s'ouvrit.
tous les sens soudain en alerte, je poussai sans bruit le battant, puis me figeai, le souffle coupé. Laurier portait une longue cape sombre par-dessus sa chemise de nuit. Ses cheveux défaits tombaient en cascade sur son dos. Cire Dorée, lui, avait enfilé une robe de chambre, et la lueur du petit feu faisait luire le fil satiné des oiseaux brodés sur son dos et ses manches, de même que les mèches claires de la longue chevelure de Laurier. Les mains du fou étaient cachées par des gants de dentelle. La grand-veneuse et lui se tenaient près du feu, à se toucher presque tête contre tête, et je restais sans bouger, comme un enfant effrayé, en me demandant si j'avais interrompu une étreinte. Cire Dorée me jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de Laurier, puis du geste m'indiqua d'entrer et de fermer la porte derrière moi. La jeune femme se tourna vers moi, et je remarquai ses yeux agrandis. « Je vous croyais dans votre lit en train de dormir ?» dit-elle à mi-voix. Avais-je perçu de la déception dans son ton ?« Je dînais à la cuisine, » expliquai-je. J'attendais une réponse, mais elle se contenta de continuer à me dévisager. J'éprouvais soudain une envie pressante de me trouver ailleurs. « Je suis épuisé. Je crois que je vais me coucher tout de suite. Bonne nuit. » Je commençais à me diriger vers ma chambre, mais Cire Dorée me rappela.
« Tom, avez-vous appris quelque chose ?»
Je haussai les épaules. « De petits détails sur la vie des domestiques, rien d'utile à première vue. J'ignorais encore avec quelle liberté je pouvais m'exprimer devant Laurier.
« Eh bien, notre ami semble s'être mieux débrouillé. »
Il se tourna vers elle, pour l'inviter à parler. N'importe quelle femme se serait sentie flattée de l'intérêt qui se lisait dans son regard doré.
« Le prince de Voir est passé par ici, » murmura-t-elle, le souffle court. « Avant de me retirer pour la nuit, j'ai demandé à Maître Avoine de me montrer les écuries et la châterie. Je souhaitais voir comment les animaux étaient logés.
Le brumier du prince s'y trouvait ? » fis-je, sans y croire moi-même.
« Non, ce n'était pas aussi évident. Mais le prince a toujours tenu à soigner lui-même son marguet. De voir, à quelque manie singulière, une façon bien à lui de plier les affaires, de suspendre les harnais, il est très pointilleux là-dessus. Or, il y avait un box vide dans la châterie, et sur l'étagère, j'ai vu des brosses et d'autres instruments rangés d'une certaine manière que j'ai reconnue. C'est celle du prince, sans aucun doute. »
Au souvenir de la chambre de devoir à Castelserre, j'étais tenté de donner raison à Laurier. Cependant, croyez-vous qu'il aurait laissé sa Marguette atorée, couchée seule dans un box ? À Castelserre, elle dort dans sa chambre.
Il y a tout le confort dont peut rêver un marguet. Des troncs d'arbres pour se faire les griffes, les plantes qu'il préfère, des herbes qui poussent dans des baquets, des jouets pour se donner de l'exercice, et même des proies vivantes pour les repas. Les Brésinga élèvent des lapins par clapier entier, et leurs marguets ne mangent jamais de viande froide. Ces animaux sont vraiment traités comme des rois.
La question suivante me vint naturellement à l'esprit. Le prince serait-il pu lui-même loger dans la châterie pour rester près de sa marguette? Le panier que j'avais vu changer de main n'avait peut-être pas parcouru un long chemin. Laurier haussa les sourcils.
Le prince? Loger dans la châterie?
D'après ce que je sais, il est très attaché à sa compagne. Il aurait pu ne pas vouloir s'en séparer. Je m'étais retenu au dernier instant d'exprimer le fond de ma pensée. Le prince avait le vif et refusait de quitter son animal de lien. Un silence s'ensuivit que Cire Dorée rompit. Sa voix douce n'était audible que de Laurier et moi.
« Eh bien, nous avons au moins découvert que le prince réside ou a résidé ici, même s'il ne s'y trouve pas pour le moment. Demain nous apportera peut-être d'autres renseignements.
Les Brésinga jouent au chat et à la souris avec nous. Ils savent que le prince a disparu de la cour avec sa Marguette, et ils se doutent peut-être que nous sommes à sa recherche. Mais nous allons nous en tenir à nos rôles respectifs et danser sur le rythme qu'ils nous imposeront. Il ne faut pas trahir ce que nous avons appris.
« J'ai horreur de ça, » déclara Laurier sans détour. « J'ai horreur de cette hypocrisie, de cette politesse de façade. J'aimerais pouvoir attraper cette femme, Dame Brésinga, par le col et la secouer jusqu'à ce qu'elle avoue où est caché le prince. Quand je pense à notre reine qui se ronge les sangs à cause d'elle, je regrette de ne pas avoir demandé à visiter la châterie avant le dîner. Mes questions
aurait été bien différente, croyez-moi. Mais je vous ai rapporté ce que j'ai vu aussitôt que possible. Les Brisinga m'avaient donné une servante qui a tenu à m'aider à me préparer pour la nuit. Et ensuite, je n'ai pas osé sortir de ma chambre tant que je n'ai pas été certaine que tout le monde, ou presque, dormait dans le manoir. Poser des questions de but en blanc ne nous servira de rien. Pas plus que secouer de nobles dames comme des pruniers pour leur arracher la vérité. Sa Majesté veut que devoir lui soit rendu discrètement. Tâchons de ne pas l'oublier. Le regard de Sire Doré nous englobait tous les deux, la jeune femme et moi. J'essaierai, répondit-elle résignée. Parfait. Et maintenant, reposons-nous tant que nous le pouvons avant la chasse de demain. Bonne nuit, Tom.
Bonne nuit, Sire Doré. Grand Veneuse Laurier. Le silence régna un moment dans la pièce, et nul ne bougea. J'attendais le départ de Laurier pour verrouiller la porte derrière elle et parler au fou du panier et du lapin, mais eux-mêmes attendaient que je m'en aille. La jeune femme examinait une tapisserie avec un intérêt qu'elle ne méritait pas, tandis que Sire Doré contemplait d'un air admiratif sa cascade de cheveux. Devais-je fermer la porte? Non. Ça aurait été indélicat. Si le seigneur Doré voulait y mettre le loquet, il s'en chargerait lui-même. Bonne nuit, répétai-je en m'efforçant de cacher mon embarras en prenant une voix endormie. Je saisis une chandelle, me rendis dans ma chambre et fermai derrière moi. Je me déshabillai et me glissai entre mes draps en interdisant à mes pensées de s'aventurer au-delà de ma porte. J'essayai de me convaincre que je n'éprouvais nulle jalousie, mais seulement la morsure cuisante de ma solitude, par contraste avec ce que mon ami et la jeune femme partageaient peut-être. Puis, je me traitais d'égoïste. Le fou avait vécu des années dans l'isolement, coupé de tous. Pouvais-je lui en vouloir de jouir du doux contact d'une main féminine à présent qu'il était devenu Sire Doré? Aïe de nuit. Le nom avait quitté mon esprit avec la légèreté d'une feuille sèche emportée par la brise. Je sentis son vif effleurer le mien et me sentis mieux. Des chaînes l'entouraient et un vent frais soulevait ses poils. Je n'étais pas seul. « Dors, petit frère. Je traque notre proie, mais je crois que nous n'apprendrons rien de neuf avant l'aube. » Il se trompait.